Vous les trouverez dans le garage ou dans le grenier, dans un carton, dans le placard, au fond, chez vos parents, chez vos grands-parents. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les ait gardés, tout en sachant qu'on ne s'en servirait plus, puisque ce sont des objets qui sont devenus désuets. Le caméscope, vous savez, la caméra Super 8, le vieil appareil, on va quand même pas les jeter. Vous savez, moi, ça m'intéresse toujours, ce dont on ne parvient pas à se débarrasser, tout ce qu'on choisit de retenir, de préserver, de garder. D'autant que ces objets-là, les caméras, c'est l'une de leurs fonctions précisément, elles gardent. On dit même qu'elles immortalisent un instant, un moment, le temps. Et force est de constater qu'on aime ça, qu'on le cultive, puisqu'on les a gardées elles-mêmes, religieusement, même s'il manque toujours un fil, un lecteur, une pile, même si le branchement n'existe plus vraiment, même si on ne peut plus rien en faire, on les a gardées. Peut-être un peu par culpabilité, parce qu'à l'époque, elles avaient un prix, ou par envie. Après tout, c'est possible qu'elles reprennent un jour de la valeur, on ne sait jamais. En tout cas, on les a pas achetées, on les garde, un peu comme des reliques, des témoins du passé, auréolés d'un caractère presque sacré. On les garde pour ce qu'elles ont représenté à un moment de la modernité. On les garde comme les images fantômes qu'elles ont enregistrées, qu'elles ont gravées, qu'elles ont préservées, qu'elles ont gardées.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, que capte, que retienne, que fixe mes invités d'aujourd'hui. Ma première écrit des livres où elle explore depuis bientôt 50 ans l'épaisseur de l'expérience vécue, intime et collective. Mon second est son fils et les journalistes. Ensemble, ils ont réalisé leur premier documentaire présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes et pour lequel ils ont réuni des images d'archives tournées avec la caméra familiale entre 71 et 82. Ça s'appelle Les années Super 8 et c'est d'une force aussi vibrante et vivante que le grain de la pellicule. Bonjour Annie Ernaux.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là. Bonjour David Ernaux Briot.
Bonjour Augustin.
Merci aussi d'être avec nous. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on parvient à saisir, à retenir, à garder avec une caméra?
Le temps, je crois. Ce sont les visages des disparus, par exemple, des gens qui ne sont plus là. Toute la vie familiale aussi, c'est la vie personnelle. C'est aussi, j'ai dit le temps parce que l'histoire est présente, le collectif. Hein, c'est-à-dire, c'est une histoire personnelle, mais on sent qu'elle appartient à une époque.
Ça veut dire que dès qu'on s'en empare, David, on cherche même inconsciemment à fixer quelque chose?
Oui. Mon père, quand il filmait, parce que c'est mon père qui tenait la caméra à ce moment-là, cherchait à capter les moments assez traditionnels qu'on filme sur les images Super 8, hein, des anniversaires, des Noëls. Mais c'est les meilleurs moments de la vie. C'est ce qu'on va avoir envie de s'en souvenir de ces moments-là. Et puis je voulais dire, avec les films, différemment de la photo, voir un film, c'est toujours joyeux. Je pense que ça capte l'âme, le mouvement, la vie en fait.
Vous dites parfois, Annie Ernaux, l'éternité même.
Oui, c'est aussi quelque part ce qui ne reviendra plus. Hein. Donc, il y a une forme aussi de, pour moi, c'est peut-être un peu moins joyeux parce que, en fait, c'est son enfance à David qu'il voit, tandis que moi, c'est ma vie de jeune femme. Et il est évident que pour moi, ça remonte très loin, que s'inscrit là une période aussi qui est majeure dans ma vie. Hein. Voilà.
Et dont on va reparler évidemment parce qu'elle est centrale. Mais en voyant ce film, Annie Ernaux, constitué d'images du passé, donc j'ai pas pu m'empêcher de penser à une phrase qui ouvre votre livre Les années, toutes les images disparaîtront. Qu'est-ce que vous vouliez dire à l'époque ?
À l'époque, c'était que la mémoire, toute la mémoire accumulée, disparaîtront en fait au moment de la mort. C'est ça, hein, ça se termine comme ça, hein, le passage des années qui ouvre les années. Et toutes ces images, je les énumère. Et là, ce qui est fabuleux, effectivement, ce sont des images réelles. Et de les ressortir et effectivement de les introduire, ou plutôt elles ont été le prétexte d'un récit que je développe dans le film. C'est effectivement les garder.
Alors c'est très émouvant ces images, David Ernaux Briot, vous les connaissiez, vous les regardiez régulièrement?
Oui, c'était une tradition familiale, quand mon père était avec nous, de sortir le projecteur et on regardait avec avidité les films.
Ce sont des séances de réactivation de la mémoire en fait, j'ai l'impression à vous entendre.
Oui, et moi ça m'a vraiment constitué. C'est pour ça que peut-être que moi je n'éprouve pas de tristesse en regardant ces images. Elles m'appartiennent, elles sont moi, elles me constituent. Et quand j'ai commencé à faire le film, je travaillais un matériel qui, finalement, n'était pas tellement émouvant. C'est plus en faisant le film que l'émotion est venue.
Au fond, qu'en raconte une image, Annie Ernaux? Qu'est-ce que ça raconte presque malgré soi, une image?
Une foule de choses. C'est énorme. Quand je vois des images d'anniversaire, d'abord les enfants sont petits et je regarde les joies qu'ils ont à l'époque. C'est un signe d'époque. Je regarde aussi la façon dont je suis moi dans le film, souvent un petit peu de côté.
En retrait,
oui. Mais ça raconte la famille, ça raconte les rapports entre les membres de la famille et la manière dont on est habillé, ça rappelle l'époque.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait quand vous et votre ex-mari avez fait l'acquisition de cette caméra Super 8, cet objet dans la France du début des années 70, ça représentait quoi au fond ?
Alors c'était un objet très cher, hein, et ça représentait en réalité un progrès fabuleux. On allait pouvoir se voir en train de bouger. Alors, on n'imaginait pas encore se voir en train de parler, mais déjà se voir en train de se mouvoir par rapport à l'image fixe, voilà, c'était un progrès immense qui n'était pas à la portée de tout le monde, vu le prix, c'était ça. Et puis, on avait le sentiment d'appartenir à la France qui avance. Mais les années 70, ce sont tout de même ces années-là. Ce sont des années où on a envie d'aller loin, de voyager. Donc, avoir une caméra, c'est fixer l'espace. Et c'est fixer des tas de choses qu'on n'aurait pas pu faire auparavant.
Et fixer des aspirations aussi, David Arnaud Brio, c'est ce qui est assez délicieux dans le film, les aspirations d'une classe sociale à laquelle vous apparteniez. Annie, à l'époque, celui de la bourgeoisie intellectuelle d'une certaine gauche, que vous regardez avec un sourire, j'ai l'impression. De quelles aspirations est-ce qu'on parle, là, justement ?
Alors, moi, ce qui est apparu au cours du montage, c'est qu'on a un récit des utopies. Et ça, c'est absolument incroyable. Ça m'a replongé dans cette époque où la politique était partout présente. Le film décrit les diverses utopies.
Oui, les aspirations à une société nouvelle. Je pense par exemple à votre voyage au Chili, au moment de l'unité populaire réalisée par Salvador Allende. Ce voyage, quel tournant est-ce que ça représente, Annie Arnaud ?
Alors là, c'était vraiment une aspiration à une France socialiste. Il faut pas oublier que nous étions depuis 18 ans sous De Gaulle, ensuite Pompidou.
Ça devait vous plaire, vous connaissant.
oui, donc effectivement déjà, c'était insupportable. Et il y avait une aspiration à effectivement un gouvernement qui à l'époque n'incluait pas les communistes. Hein. On voulait à l'époque une gauche, qui gouverne, et c'était le Nouvel Observateur qui était porteur de cette aspiration et qui avait organisé ce voyage au Chili.
Alors vous dites qu'il vous rappelle ce voyage, la promesse secrète que vous vous étiez faite, qui est celle de venger votre race.
Ah oui, c'est-à-dire que dans ce voyage au Chili, de retrouver, il y avait une grande misère au Chili que Allende essayait de juguler, justement, de transformer, et de voir cette misère, de parler de justice sociale, etc. Moi, ça m'a rappelé évidemment toute ma jeunesse, toute mon enfance et les gens du café. C'était très fort. Et je savais que je devais écrire ce livre, mais je savais pas comment. Mais c'était une pulsion secrète, bien sûr. C'était parce que c'était tellement étonnant. Moi, devenue la petite bourgeoise, professeure, tout cela, c'était très secret.
Mais ce que vous racontez aussi, ce sont les origines de l'écriture. C'est ça qui est fascinant. C'est quelque chose. Dans quelle mesure ça vous a marqué, vous, David Arnaud Brio, lorsque vous avez mis ensemble ces images familiales ?
Ah, peut-être rien.
je réfléchis à la question du monsieur. Ce qui m'a marqué, c'est le dévoilement qu'elle révèle sur les images. On a, avec le texte, un éclaircissement. En plus, ma mère a vraiment le sens de la formule et envoie parfois, alors qu'on ne s'y entend pas, une sentence, une phrase d'une, je dirais pas d'une violence, mais au moins d'une brutalité qui réveille et drôle parfois. Parfois, on se dit, mais oui, évidemment. Par exemple, sur le Chili, on filmait la misère, mais on n'avait pas l'impression de filmer la misère justement parce que c'était le combat d'un président.
Mais dites-moi, ce sentiment, David, d'appartenir à une classe sociale spécifique, la prise de conscience de l'existence même de différentes classes sociales au sein de notre société, ce sur quoi votre mère a beaucoup écrit, quand est-ce que c'est apparu chez vous ?
Dans la famille, on parlait classe sociale.
avec ma mère, mais aussi avec mon père, qui avait eu une formation de, à Sciences Po, de, qui avait suivi un cours sur le marxisme, etc. Donc on parlait de classe sociale. C'est plus tard, quand je me suis vraiment confronté à d'autres classes sociales dans mon cheminement de vie, que je me suis aperçu que on faisait le partage des vivants entre les individus, et que je l'ai ressenti, moi aussi, différemment, bien évidemment, que ma mère. Mais
Vous voulez dire que vous n'aviez pas conscience du mal-être de votre mère lié à son statut de transfuge ?
Non, non.
Parce que ça se cache.
Mais oui. Mais évidemment, rien n'apparaissait. C'était ma mère qui était porteuse de la classe sociale à l'intérieur. Et dans le film, on le voit. Sa façon de se tenir, sa façon de bouger, voilà. Mais moi, j'étais de l'autre côté. Donc, je ne pouvais que conserver ce secret. Je cachais. J'étais pas même pas une transfuge. Ce mot n'existait pas. Donc, j'étais simplement une femme qui a réussi, on dirait. Voilà.
Ce qui me frappe dans les toutes premières images qui ont été tournées, c'est le caractère de happening théâtral auquel l'arrivée de la caméra dans la famille a donné lieu. Un happening imaginé par mon mari, qui a saisi le moment où je revenais avec les enfants des courses au supermarché. Nous vivons un moment inouï, à la fois heureux et empreint d'une certaine violence. On ne sait pas quoi faire de cette durée nouvelle arrachée à notre vie.
Annie Ernaux et David Ernaux-Briot, invités de Boomerang ce matin pour leur documentaire Les années Super 8, un film qui invite, et c'est quand même passionnant, hein, à s'interroger sur l'évolution de notre rapport à l'image. Annie Ernaux, quand cette caméra a fait irruption dans votre famille, comment vos enfants et vous-même, dans un premier temps, vous vous comportiez face à cet objet étrange ?
Alors, on voit la scène, c'est-à-dire que mon mari va nous surprendre en train d'arriver dans l'entrée et il va nous saisir avec en plus cette espèce de lampe très très forte dont il avait besoin à l'intérieur pour filmer. Et on est tous mais mal à l'aise, on ne sait pas quoi faire de son corps.
Et alors, vous ne vous en souvenez pas, David Ernaux-Briot, ça a dû vous faire rire.
Ah non, moi je ne me souviens de rien, je n'ai aucun souvenir de ça.
Entre nous, vous aimiez être filmé, Annie ?
Non, je dois dire, et pas davantage maintenant.
C'était la prochaine question. En tout cas, filmer ses proches, c'est intéressant, c'est devenu quelque chose de banal et à portée de tous aujourd'hui. Oui. Tout le monde filme tout le temps, de manière presque compulsive. Quel regard est-ce que vous portez tous les deux sur l'impact, en fait, de la démocratisation du smartphone qui bouleverse notre rapport à l'image ?
Moi, je pense que ça transforme beaucoup notre rapport aux autres même. Hein. On était au fond comme des personnes très individualiste finalement, puisqu'on voulait pas, on était gênés dès qu'un regard de caméra se posait sur nous. Hein. Mais aujourd'hui, voilà, combien de gens demandent tout simplement un selfie avec moi, par exemple. Ça, bon, c'est la photo, d'accord, mais on filme aussi. Hein. Et je crois que ça nous rend, d'une certaine façon, aussi étrange que ça puisse paraître, ça nous rend plus proches des autres quand même.
Dans quelle mesure, par exemple, pourrait-on dire, pour paraphraser le début de votre nouveau livre Le Jeune Homme, qu'aujourd'hui, Annie Ernaux, si les choses ne sont pas filmées, alors elles ne se réalisent pas totalement et donnent l'impression d'avoir été simplement vécues ?
Je crois que oui, on pourrait appliquer ça à l'utilisation effrénée du smartphone. Hein. Peut-être la différence, c'est que on ne regarde pas, on regarde très peu ce qu'on filme avec le smartphone. Voilà, ça n'a pas du tout l'impact que ça pouvait avoir lorsqu'on regardait les Super 8, qu'on s'installait. On donnait une fiction en spectacle. C'est ça. Hein, on invitait les gens, quelquefois, à voir les films. oui, on les embêtait, mais enfin, on les invitait.
sur les fameuses soirées diapo.
Voilà, ou films, oui. Bien sûr. Mais c'est ça, on se donnait à voir. Et là, je crois que c'est beau. Maintenant beaucoup plus, effectivement, compulsif, et il n'y a pas ce caractère un peu solennel du visionnage des films Super 8.
Mais j'aime bien cette première phrase de votre dernier livre. Au fond, vivre les choses. Simplement les vivre. Pourquoi c'est pas assez ?
Parce qu'elles passent et qu'elles disparaissent et que à la fin on sait bien comment ça se termine. Voilà.
En tout cas, pour en revenir au statut de l'image aujourd'hui, ce qui frappe dans le film, c'est quand même le soin avec lequel votre mari et votre père, David Ernaux-Briot, filment ce qui l'entoure. Il filme pas n'importe quoi, il filme pas n'importe qui et il ne filme pas n'importe comment. Quel filmeur est-ce qu'il est pour vous ?
En revoyant les images, et maintenant que j'ai pratiqué l'image, j'étais étonné par la qualité et l'intelligence des images. Il n'y a pas une image qui ne soit d'abord bien cadrée et qui n'ait une intention dans le filmage. Alors, c'est pas un cinéaste au sens où il n'a pas fait des plans alternés, où il a fait des gros plans pour pouvoir construire une séquence. Mais l'image est bien faite. Voilà. Ce sont des images de la vie de tous les jours. C'est ce qu'il désirait de la vie, c'est ce qu'on a envie de garder en souvenir de la vie. C'est très classique, hein. Donc on a les Noëls, on a les anniversaires, etc. Il y avait une intelligence dans le filmage, il y avait un projet.
Et vous aviez conscience, ça, Annie Arnaud?
Alors, je dois avouer que non. c'est terrible de dire ça. Mais je crois peut-être que quelque part, c'est parce que je lui en voulais de s'être adjugé la maîtrise de la caméra. Oui. Et de ne m'avoir pas laissé filmer. C'est au départ que j'aurais dû le faire. Et je ne me suis pas du tout imposée. Alors, quelquefois, je l'ai filmé, mais c'était moi qui insistais pour le filmer.
On ne le voit pas assez dans le film.
Mais non, mais je sais, mais voilà. Il voulait Et il faisait toujours un peu le clown quand je le filme, c'est ce qu'on voit. Il est pas sérieux. Et alors que oui, on est dans les rôles, hein, là. Bon, il me laisse la caméra, donc voilà, c'est pas sérieux ce que je fais, quoi. Et donc il est pas sérieux non plus. Et moi dans les films, on voit bien que je souris, je tâche d'être à mon avantage.
Vous voulez dire que vous vous conformez à quelque chose aussi?
Ah, je me conforme. Bien sûr que je me conforme à l'image de la femme zen, mais pas du tout, pas drôlatique, hein, pas drôlatique du tout.
Elle n'est pas zen et drôlatique, votre mère, David Arnaud Brio.
je voulais dire, les films, il ne remontait pas avec recherche intelligente, il prenait les films de 3 minutes et il les collait les uns après les autres et c'était fini.
Oui, mais j'ai l'impression que votre film témoigne aussi d'une époque où on prenait le temps de faire de belles images.
Alors les belles images, ouais, déjà il y a le Super 8. Il y a le grain du Super 8, l'imprécision du Super 8, et puis les couleurs, l'intensité des couleurs. Et on recherche aussi, de toute façon, en faisant des images, très souvent la beauté.
Qu'une image reste ou qu'elle disparaisse, Annie Arnaud, au fond, ça tient à quoi?
C'est à beaucoup de choses. Elles auraient pu disparaître, ces images, hein, vraiment. Elles auraient pu, je sais pas...
Vous les auriez jetées, vous?
Ah non. Non, non, mais mes héritiers peut-être, mes fils.
Il se trouve qu'il y en a un qui est présent, on va lui demander, vous les auriez jetés?
Ah non, l'idée du film vient d'une demande de mes enfants, qui ont voulu voir Philippe. Alors, il apparaît pas beaucoup dans les films, mais pour nous voir, pour voir me voir moi, quand j'avais 3 ans.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Et je crois qu'ils étaient heureux de voir, déjà, mes enfants sont nés après la mort de mon père, donc de voir leur grand-père.
Est-ce qu'ils ont dit que votre maman ressemblait à Julianne Moore quand elle était jeune? C'est authentique, je le dis aux auditrices, aux auditeurs de Boomerang. On va reparler ensemble d'apparitions, de disparitions et d'images du passé juste après un titre de 1975 que vous connaissez bien. C'est la BO de ces années, l'été indien, de Joe Dassin. Vous êtes sur France Inter avec Annie Arnaud et David Arnaud Brio. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Aux couleurs de l'été indien.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Vous savez, ils sont émouvants quand même à regarder, même s'il est difficile d'imaginer qu'ils ont un lien de parenté, qu'elle est la mère et lui le fils, peut-être parce que la ressemblance n'est pas frappante, hormis dans le sérieux avec lequel ils écoutent et répondent, et puis dans ce sourire aussi quand même, tout en couleurs complémentaires ce matin, elle avec une chemise et lui avec un t-shirt, jean blanc, Annie Ernaux et son fils David Ernaux Brio, invité de Boomerang pour les années Super 8, qui a fait l'événement de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, un film, on le disait, réalisé à partir d'images d'archives, presque exclusivement tourné par votre ex-mari, Annie. Pourquoi d'ailleurs? Parce que vous l'avez amorcé. Pourquoi c'était lui qui tenait la caméra, tout simplement?
Alors, c'était des rôles vraiment, au départ de notre couple, c'était des rôles vraiment très tranchés. Lui, c'était la technique, la chaîne IFI, l'appareil photo, et c'était maintenant la caméra. Et moi, je faisais la cuisine, je m'occupais des enfants, et je travaillais bien sûr, hein, j'étais professeure, je tiens à le dire.
Non mais je vais vous dire, moi ce que je trouve fascinant, c'est que ce soit son regard sur vous et sur la vie que vous meniez ensemble qui est prévalu pendant ces années-là, parce que c'est ça dont le film témoigne, de son regard.
C'est son regard à lui, mais j'étais solidaire de ce regard, parce que je ne lui disais pas « ne filme pas ça » ou « filme plutôt ça ». Non, c'était en général, je le laissais.
Vous n'êtes pas si autoritaire, Annie.
Non, je ne suis pas. Non, je suis
filme
pas.
Plutôt le frigidaire.
Non, mais il filmait. Non, et les choses maintenant qu'il a filmées, quelquefois, prennent un sens très différent aujourd'hui. Par exemple, il filme à l'intérieur, il filme beaucoup. Les objets de l'intérieur. Et je ne sais pas ce que j'ai pensé à l'époque, mais maintenant, je me dis, il filmait les objets qu'on venait d'acheter. Oui, voilà, oui. Qui était le signe de notre ascension. C'était des objets anciens. Et donc, ce qui à ses yeux, avait de la valeur. C'est une chose, à l'époque, qui ne me venait pas vraiment.
Mais l'image qu'il donne de vous, Annie Ernaux, c'est quelque chose qui vous a marqué, David Ernaux Brio, vous, quand vous avez retrouvé et mis ensemble ces images, le portrait en creux qu'il faisait de la famille et de la mère.
Il avait un regard extrêmement bienveillant,
oui.
Joyeux, heureux. On ne se méfiait pas à l'époque du filmeur. On ne soupçonnait pas quelqu'un de pouvoir filmer quelque chose qui soit désagréable. Et quand vous avez dit « ma mère se fie à son regard », mais non, le regard... C'est le regard de ma mère. On a un regard beaucoup plus précis par l'écriture, me semble-t-il, que par des images qui renvoient
Parce que le film est effectivement accompagné en voix off d'un texte central qui traverse le film que vous avez écrit, Annie Ernaux.
Oui.
Qui vient presque corriger le film à certains endroits, d'ailleurs.
Oui, 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 mais effectivement, c'est une interprétation aussi. Hein. L'image, elle est globale. Hein. C'est ça, l'image. Elle est donnée en un tout. Alors que l'écriture va détricoter, en quelque sorte, et montrer tout ce qu'on ne voit pas aussi.
Les hors-champs, en fait.
C'est le hors-champ. C'est le hors-champ et qui est invisible, parce qu'on ne voit pas les pensées de personne. Mais... On ne voit pas les rapports entre les gens. Donc, il faut bien que j'explicite, puisque ça formera une histoire. C'est aussi l'histoire d'une femme qui va se mettre à écrire, qui va écrire un livre, qui va être publié, qui va en écrire un deuxième. Et puis, en même temps, c'est l'histoire d'un couple qui se défait.
Et en l'occurrence, l'histoire d'une femme, Annie Ernaux, pour qui écrire, ça a été aussi une façon de s'affranchir du regard qui était posé sur elle, du cadre
littéralement, qui était posée sur sa vie.
Oui, c'est absolument dévoiler une autre facette des rapports sociaux et comment je ne suis pas de ce monde-là.
Quand est-ce que vous avez compris, David Arnaud Brio, que votre mère écrivait, tout simplement?
Oh là là.
C'est moi qui pourrais répondre.
Ah bon?
Ah bon? Pourquoi?
Alors on va confronter. Moi je crois que c'est 86, le prix Renaudot.
Ben c'est 84. Hein,
bon, ben déjà. Voilà, déjà ça commence mal. Voilà, j'ai eu conscience de l'importance de l'écriture pour ma mère, du moins le succès, je sais pas. Je pense que c'est plus tard, peut-être, ou vers, quand j'avais eu 18, 20 ans, j'ai compris toute l'importance, parce que moi, j'ai eu une formation par ma mère de la lecture, donc des conseils de lecture, et forcément, j'ai compris l'importance...
Vous faisiez lire Les Misérables, en fait.
J'ai compris l'importance de l'écriture.
Oui,
Sartre, la nausée.
C'est intéressant, quand même, hein, d'avoir ce point de vue-là. Et vous, Annie Arnaud, que diriez-vous de ce moment clé, charnière, où votre vie se comprend?
Moi, je le mettais plus tôt, alors... Non, en fait, c'est son frère, c'est Eric, qui, en 77, avec mon deuxième livre, il a dit « je veux écrire », et il a demandé des feuilles, etc. Et donc, lui, il avait conscience, mais je pensais qu'à ce moment-là, peut-être, tu avais eu un peu conscience, mais non, tu étais encore à l'école.
Comment c'était perçu dans la famille, le fait qu'Annie Arnaud écrive?
C'était normal.
Oui, je crois que c'était normal.
Mais hein, parce qu'on questionne pas ses parents. C'était ma grand-mère, je ne voyais pas la différence de classe sociale. Elle était normale, c'était ma grand-mère. Enfin, voilà,
oui.
Il y a un naturel qui...
Je vous pose la question, parce que dans le film, Annie Arnaud, vous nous expliquez bien que l'écriture, au départ, vous la pratiquez dans une forme de clandestinité.
Absolument.
Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas que ça se sache?
C'était le sujet, c'était très, très difficile. Et puis, j'avais déjà écrit un texte qui n'a pas été publié. C'est toujours le premier texte quand j'avais 22 ans. Mon mari savait que j'avais écrit ce texte, mais il l'avait traité avec, disons, pour le moins, une désinvolture. Il me prenait pour une écrivaine ratée. Je le dis franchement. Et je n'avais pas envie, effectivement, d'avoir ce regard si je me remettais à écrire. Et le sujet, cette fois, était vraiment très, très différent, puisque c'était ma jeunesse, mon enfance, et c'était ce sentiment de déchirure par rapport à mon milieu, qui était quelque chose d'extrêmement... qui n'était pas écrit beaucoup dans la littérature jusqu'à présent, même pas du tout, sous cette forme-là.
Ça veut dire qu'écrire, c'était aussi s'éloigner de lui?
Oui, c'était s'éloigner de lui, c'était s'éloigner du monde aussi qu'il représentait, sans doute aussi de sa propre famille à lui, mes beaux-parents. Et d'ailleurs, lorsque le livre, et j'ai bien dû lui dire que le livre était pris par mes éditeurs, il a eu vraiment une réaction très forte. Non pas de colère, mais comme si vraiment, en fait, je l'avais trahi.
Vous savez, pour nous, en tant que spectateurs ou spectatrices, c'est ça qui est bouleversant dans le film. C'est quand on se rend compte qu'en plus du début de l'écriture, c'est aussi l'histoire de la fin d'un amour.
Oui.
Et pour vous, David Arnaud Brio, qui est l'enfant de cet amour?
Alors, j'avais pas conscience naturellement à l'époque, mais en revoyant le film et en le construisant aussi, c'est à la fois la fin d'un couple qui va se séparer, mais il y a une ambiguïté de savoir si c'est pas l'écriture qui a séparé ce couple, qui a amené à une situation qui n'était plus conciliable entre deux.
Oui,
je ne sais pas ce que tu en penses.
Je pense qu'effectivement, l'idée de plus conciliable, c'est certainement un terme qui convient.
Un livre ne change pas la vie comme on espère ou croit. C'est une phrase que vous dites dans le film.
Oui, en fait, j'attendais énormément d'être publiée, d'avoir un livre. Je ne sais pas, c'était comme si, d'un seul coup, c'était la liberté qui m'était redonnée, une très grande décision. Et en fait...
Qu'est-ce que vous avez eu?
Rien de particulier. Et même, nous avons déménagé, enfin, on était pris dans des remous, la fonction de mon mari, et on a déménagé, on est venu en région parisienne, à Cergy-Pontoise. Et non seulement ça n'a rien changé, mais je crois que ça a aggravé les dissensions et je pouvais même pas écrire. Enfin, et alors que je n'avais plus qu'un désir, c'était écrire en réalité.
Il a fallu être seul, être séparé, être déconnecté en fait pour pouvoir écrire et réaliser ça.
Écrire réellement, oui. Oui, il y a un livre encore qui sera publié pendant que je suis mariée, qui est La femme gelée. Et ce livre a, je crois, lui, encore plus aggravé les choses, bien sûr, parce que là, je mets en cause, d'une manière générale, hein, je n'entre pas dans les détails, mais je mets en cause, effectivement, la façon dont les femmes sont, on dit maintenant, sont soumises à la charge mentale. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, aller chez le médecin avec les enfants, etc., etc.
Quelle expérience est-ce que c'est pour vous, David Ernaud-Briot, de lire un livre de votre mère ?
Je n'ai pas tout lu, j'en ai lu beaucoup. Alors, l'expérience, c'est que, en toute immodestie, parfois je me dis, mais ça, je l'ai pensé. Mais bon, je ne l'ai pas écrit, c'est ça le problème. Non, mais je veux dire, voilà, mais je suis son fils. Donc, ma structure mentale est quand même a été, forcément, ça s'appelle la transmission, tout simplement. Et je comprends tout. Et ça me touche énormément.
Merci infiniment. David Ernaud-Briot, Annie Ernaud, merci d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Les Années Super 8 vient d'être présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, qu'il sortira au cinéma le 14 décembre. L'attente risque d'être fébrile. Je rappelle par ailleurs que votre dernier livre, Le Jeune Homme, vient lui aussi de paraître aux éditions Gallimard. Tout de suite, Les Médias, Sonia De Villers et son Instant M. C'est juste après ça.
O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my